Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Avec nous ce mois-ci, deux invités que vous avez pu entendre dans le podcast du mois dernier, qui étaient consacrés à l'écriture, et en particulier avec cette question, l'écriture seule ou à plusieurs? Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, écoutez l'épisode précédent pour savoir, on vous dit tout. Donc avec nous, Cécile qui est scénariste. Salut Cécile.
Salut Mathieu.
Ça va Cécile?
Bah ça va.
La grosse forme, la patate?
Ouais.
Ok, super. Et on a aussi avec nous Pierre-François, qui est script doctor, ou plutôt script jardinier sur le scriptjardinier.com. La forme, PF?
La forme.
On peut t'appeler PF, tout va bien?
PF, j'aime bien.
Ok, bah il aime bien. On en profite pour saluer Judith, qui est partie à La Réunion écrire son projet de film avec sa co-auteure. Et nous, on se plaint hein, dans notre bureau, là. Mais voilà, il y en a qui vont à La Réunion écrire des films.
C'est plutôt cool. Hein.
Une petite pensée pour Judith. Salut Judith, si tu nous écoutes.
De quoi va parler ce podcast, Mathieu?
De créativité.
Rien que ça, dis donc, pas mal.
Eh oui, on va vous parler de nous, de ce qu'on fait pour être créatif, de nos petites habitudes, tout ça. Vous saurez tout de nous, ou presque tout.
Mais avant cela, je vous propose notre super question. Qu'est-ce que tu as branlé ce mois-ci? Donc je me tourne vers PF, tiens. Qu'est-ce que tu as branlé ce mois-ci, PF?
Eh bien, ce mois-ci, je me suis surtout occupé de réécrire mon site. Donc je refais entièrement mon site. Le scriptjardinier.com. Donc, c'est un travail.
T'as vu cette pub qui vient faire chez nous?
Ouais, c'est clair.
Ah
c'est
ouais, pas chouette, cool. C'est un travail très ennuyeux. Donc, j'ai été justement ce mois-ci très peu créatif. Donc, justement.
Faut pas être créatif pour refaire un site?
Bah, justement, il faut l'être. Et justement, je me suis posé la question en venant, pourquoi est-ce que je suis si peu créatif actuellement? Donc, on va en parler tout à l'heure. Et autrement, eh bien, je fais un coaching pour un court-métrage avec un jeune réalisateur. C'est notre troisième collaboration.
Bah super, bien.
Et je suis très content.
Donc les patients ou les apprentis jardiniers sont plutôt fidèles?
Ah bah lui, en tous les cas, il est fidèle et, c'est cool. et c'est très intéressant.
C'est cool. Bah, ouais. Et toi, Cécile, alors, qu'est-ce que tu as branlé ce mois-ci?
On a
notre petite idée.
Évidemment, puisque vous étiez avec moi au Festival de Valence. J'avais été sélectionnée pour une web-série que j'ai été pitchée à Valence devant des producteurs.
Ah, c'était toi qui passais juste avant nous, en fait.
Je me disais que... Je oui, me disais qu'on ça, se connaissait.
Tiens, on s'est dit, mais on n'a pas fait un podcast c'est avec ça. Cette nana. Elle a la même voix que
elle
la nana.
Elle ressemble vachement en plus.
C'est génial, hein, parce qu'en fait, le monde est vraiment tout petit. Hein,
exactement. Et ouais. On salue tous les copains qu'on a croisés et rencontrés à Valence. On espère qu'ils nous écoutent. Si on a bien vendu notre podcast là-bas, si on en a parlé à tout le monde, on s'excuse parce qu'on... On a dû saouler pas mal de gens. Au fait, on fait un podcast. Parce que, évidemment, on est bourré à Valence, parce qu'il y a beaucoup de soirées, il y a des apéros dans tous les sens.
Ça nous a coûté notre séance de pitch, d'ailleurs, les apéros.
Voilà. Voilà. Si on était pas très réveillés le samedi matin pour pitcher, c'était peut-être.
Il
faut bien trouver des excuses, Cécile. Ça va, tout le monde n'était pas aussi performant que tu as pu l'être sur scène.
Ah, ça, c'est clair.
Pitcher, peut-être qu'on parlera un jour du pitch.
Mmh. Complètement.
Parce que c'est un exercice assez particulier. En tout cas, on va pas parler du pitch, on va parler de créativité.
Mmh. Ouais. Mais du coup, on sait toujours pas ce que Cécile a branlé.
Ah pardon.
À part le festival, du
bah,
coup.
Si, bah, voilà.
Bah écoute, oui, le festival.
Moi, voilà.
Oui, non, mais il y a pas grand chose de plus à dire. Hein, le festival. Et puis là, j'étais un petit peu comme Pierre-François, c'est-à-dire qu'en ce moment, je m'occupe un peu de ma pub. Et je vais voir, enfin pour créer un site web, je crois que ça se fait pas mal dans le métier et je me disais que ça pouvait être intéressant, voilà.
Bah vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire.
Et vous alors, Adrien et Mathieu?
Ah, qu'est-ce qu'on a branlé nous ce mois-ci? On a pris le train pour aller à Valence. Ouais. Voilà.
On s'est amusé sur Instagram à faire notre saga Valence.
Saga Valence.
Oui, parce que si vous voulez voir en vrai Adrien, Mathieu et Cécile, je vous conseille d'aller sur Instagram.
Cécile qui a participé à notre saga Valence sur Instagram. Notre compte c'est Adrien et Mathieu, Adrien qui a H, Mathieu avec un T.
Et voilà, la saga Valence.
Voilà, on y fait les cons. Tout simplement. Voilà, ça fait pas.
C'est bien, t'es créatif.
Évidemment, on avait tellement rien à faire qu'on a fait des photos.
Ouais. Hein.
Parce que bon, un festival, c'est tellement la détente. Et puis, on a un nouveau projet avec Cécile.
Ouais.
C'est vrai.
Ce sera peut-être que le mois prochain, on aura branlé ça.
Voilà,
on vous en parle le mois prochain. Prochain podcast,
Spence.
Pour savoir si on a commencé à bosser ou pas. Mais il faudrait que oui.
Première question, Mathieu, on est parti, on est chaud.
Ça y est, on passe dans la créativité, dans le monde de la créativité.
Ouais, c'est vrai que c'est une super question, je trouve, pour aborder ce podcast. Se poser la question, avez-vous toujours été quelqu'un de créatif? Alors, est-ce que l'un de vous deux veut répondre en premier?
Qui était le petit PF?
Est-ce
que le petit PF était créatif? Est-ce qu'il dessinait? Est-ce qu'il racontait des histoires?
Je pense que j'étais créatif, mais pas dans tous les domaines. Par exemple, j'étais absolument nul en dessin, par exemple. Mes profs de dessin successifs au collège étaient éberlués de voir mon niveau. Mais oui, je pense que ma créativité, enfant, je l'exprime. Bon, déjà, j'étais fils unique. Donc ça, c'est toujours un point positif. C'est-à-dire que, bon, étant seul, en fait, le fils unique joue énormément. Créatif, voilà. Tout seul, ouais, je pense, un cliché, mais c'est vrai. Et en fait, donc j'ai passé, mais vraiment, des milliers d'heures à jouer avec des soldats.
Alors, avec quoi jouait-on, PF, en ton temps ? Toi qui es notre aîné. aujourd'hui.
Donc, tu as raison d'en parler.
Tu joues pas à la PlayStation ?
Non, mais justement, non, maintenant qu'il n'y avait que des petits soldats, des voitures, toujours des Legos, tu vois. Et je pense que ma créativité enfant, je l'exprimais vraiment dans des constructions incroyables, dans des batailles, surtout beaucoup de batailles avec énormément de soldats, beaucoup de courses de voitures. Là, j'étais créatif. Maintenant, en ce qui concerne les histoires, oui, c'est vrai que ma matière préférée à l'école, c'était quand même la rédaction. La gymnastique et la rédaction, c'était mes matières préférées.
Donc si on revoit le biopic de Pierre-François aujourd'hui...
Ça passionne tout le monde, j'imagine.
Il y a un moment où on se dit, ah quand même, il aime écrire et forcément il va finir par être dans l'écriture. Bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui te prédestinait à ça ?
Non, mais ce qui m'a prédestiné à ça, c'est vraiment une injustice. C'est-à-dire, je me rappelle très bien d'une rédaction, en CM1 ou en CE2, et j'étais vraiment sûr de moi. C'est-à-dire, je sais que j'avais vraiment fait une très bonne rédaction et j'ai eu une mauvaise note. Et ça, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit non, c'est pas juste. Je sais que ce que j'avais écrit, c'était bien. Et ça, en fait, j'ai jamais oublié.
Ton premier pas dans l'écriture, ça a été un.
Oui, ça a été une mauvaise
une
note.
Une injustice, quoi.
Oui.
C'est bien, c'est intéressant comme point de départ. T'as voulu te venger et t'as passé toute ta vie à essayer de venger.
Il semblerait d'ailleurs que la créativité vienne d'une certaine frustration en fait, qu'on a eue plus jeune.
J'ai un peu l'impression d'être sur le divan, j'ai hâte qu'on passe à quelqu'un d'autre.
D'accord. Bah merci Cécile. Au hasard Cécile.
Oui, créative, j'ai toujours été plus ou moins... Oui, enfin, j'avais beaucoup d'imagination quand j'étais enfant.
Fille unique aussi ?
Non, j'avais des frères, mais comme on jouait, ils ne m'aimaient pas, donc je jouais toute seule. donc frustration. Et je m'inventais souvent mes mondes en fait. Je faisais parler régulièrement à peu près tout ce qui passait autour de moi, n'importe quel objet. J'étais un peu animiste. Et voilà, ça m'est resté et j'ai toujours aimé inventer des mondes par la suite. Donc je pense que c'est effectivement ça qui m'a prédestiné à écrire.
Ça passait beaucoup par des jeux avec des figurines, des choses comme ça.
Je pouvais par exemple prendre les 100 tons de la crèche et puis passer une après-midi à les faire parler et inventer des trucs complètement rocambolesques. Et ça m'est resté. Puis bon, j'étais. Voilà.
C'est là que nos auditeurs devinent que tu viens du Sud.
Bah oui.
Si tu joues avec les 100 tons de la crèche.
Mais...
donc plutôt, plutôt personnage que Lego ou choses à construire.
C'était voilà, c'était les personnages qui m'intéressaient déjà. Ouais.
Voilà, intéressant.
Et moins les concepts, parce que je pense que de toute façon c'était assez limité à 7-8 ans, mais oui. C'est vrai que voilà, je m'inspirais de ce que j'avais lu.
D'accord, et c'est quoi le moment qui t'a fait, où on pourrait revenir dessus en se disant, ah c'est peut-être là le point de départ de l'envie d'écrire ? Est-ce qu'il y a un moment ? Une anecdote comme...
Non, j'ai pas une anecdote mythique comme PF, non. Simplement, je sais que j'ai voulu faire des lettres par la suite, donc je me suis dirigée vers ça, parce que je savais que j'allais écrire. Par contre, ça, c'était quelque chose que dès que j'ai su lire, je savais que j'allais écrire. Donc, il n'y a pas eu de point particulier, mais par contre, il y a une espèce d'auto-persuasion, en fait, depuis que j'ai 5-6 ans, quoi, depuis que je sais lire. Ouais.
Donc, savoir lire, ça t'a amené à vouloir écrire, à vouloir créer.
Tout à fait, ouais.
C'est cool.
Ouais.
Et toi, Adrien ? Est-ce que toi, t'es l'inverse d'un fils unique ?
Ouais, complètement. Pour le coup, on était 5. Du coup, c'est bien parce qu'on joue entre nous et du coup, on inventait des mondes entre nous, surtout avec mon petit frère Cyril, qui lui était pour le coup très créatif. Alors, je me demande si dans la famille, l'aîné est celui qui se construit par rapport aux parents, parce qu'il est le premier, c'est les premiers qui voient, et le deuxième se construit plus par rapport aux objets. Et je me souviens que mon frère Cyril créait des mitraillettes avec des Legos. Des répliques exactes de MP40 pour les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était assez impressionnant. Et je me disais, mais comment il fait ? C'est incroyable. Et du coup, on jouait beaucoup entre nous et on a joué effectivement beaucoup au Lego.
Aujourd'hui, il gagne sa vie avec un trafic d'armes fait en Lego, c'est ça,
je crois. Et ça marche. C'est ça le pire.
Et ton frère est photographe, donc il est toujours créatif finalement.
Il est dans l'image, ouais, très créatif dans l'image pour le coup.
Et toi ?
Alors moi j'étais créatif quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Alors pas de choses figuratives, c'était plutôt abstrait, beaucoup de graphisme en fait, de choses assez graphiques. Et puis il y a eu un jour quelque chose qui m'a, je pense, vraiment enterré, c'est l'école. Quand t'arrives à l'école, on t'apprend à lire, à écrire, et puis on t'apprend pas à être créatif, et ça c'est quelque chose que je voulais dire, que je trouve vraiment dommage, on n'a pas de cours de créativité. Les arts plastiques finalement, c'est pas top quoi, c'était pas super intéressant, et je regrette, à part certaines personnes que j'ai pu croiser dans ma scolarité qui m'ont vraiment encouragé, les autres, travail, et puis voilà, et surtout le collège après c'était fini, la descente aux enfers.
J'espère qu'il n'y a pas de... d'instituteur ou de
non,
prof
mais non,
qui
nous
écoute.
Non mais mon instituteur qui m'a, pour le coup, là où j'ai eu l'envie d'écrire, c'était lui qui me l'a donné quand il nous faisait faire des petites rédactions marrantes, on devait raconter des souvenirs, etc. Et voilà, il y a toujours la faute, écrit tes souvenirs de vacances, et c'est vrai que tu prends un certain plaisir quand il la lisait devant les autres ou qu'il te disait que c'était bien, donc du coup, c'est chouette, j'arrive un peu à écrire, c'est cool, ça fait... Voilà, c'est intéressant. Et puis surtout, je me suis mis à lire beaucoup. Alors je lisais à l'époque les chairs de poule, j'avais acheté 1000 ans de contes avec tous les contes, etc. Et j'adorais ça. Mais voilà, je pense que ça, quelque part, ça vient de là. Mais finalement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu ce côté
c'est
où...
C'est là que t'es tombé dans le monomythe.
Voilà, le monomythe vient de là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'étais pas du tout créatif, parce que je pense que la scolarité, l'école, j'étais pas très bien dans ma peau, fait qu'à un moment donné, j'avais envie de rien faire, et je me complaisais là-dedans, jusqu'au moment où je me suis dit, comment je vais pouvoir retrouver ce que j'avais quand j'étais petit. Mais en gros, voilà le topo, quoi. Du coup, Mathieu, toi, tu étais plutôt Super NES, c'est ça ?
Moi, j'étais très Super NES et Nintendo en général. Et j'étais aussi Lego, d'ailleurs. Je fabriquais beaucoup de choses, mais parce que j'étais fils unique aussi. Enfin, j'ai grandi assez, j'allais dire seul. J'ai un demi-frère, mais il était beaucoup plus âgé que moi. Donc, je jouais tout seul, au final. Et je passais beaucoup de temps aussi avec des cousins qui font de la musique, encore aujourd'hui, qui sont plus âgés que moi, mais qui ont fait des groupes de musique, etc. Et du coup, je suis aussi tombé dans la musique assez tôt. J'ai une tante qui était très littérature et qui m'a appris à lire et à écrire avant d'arriver à l'école où on t'apprend à lire et à écrire. Donc, je me suis un peu emmerdé au CP. Mais le côté écriture, c'est pas venu tout de suite. Ça, c'était les bases. Mais j'étais plus dessin quand j'étais petit. Je dessinais beaucoup. Je dessinais plutôt pas mal. Je voulais même faire les Beaux-Arts à un moment.
Tu faisais des bonhommes, tu faisais des choses assez réalistes, non ? T'étais plutôt sur des choses comme ça ?
J'ai eu ma période Dragon Ball Z comme beaucoup de gens, mais non, mais je dessinais beaucoup de bonhommes. Quand j'étais plutôt CP, avec un copain, on avait des petits carnets que tu mets dans ta poche et on faisait des BD dessus. Avec les personnages, c'était les camarades de classe, les profs et tout ça, les parents des camarades. Et c'était débile, c'était n'importe quoi, c'était très cool. On faisait de la BD en fait en 6 cases, on faisait des histoires. Et je les ai encore aujourd'hui, je lui ai racheté le sien même à l'époque. Déjà, je me suis dit, ça, il voulait le jeter. Je lui ai dit, non, c'est trop cool. Je me disais peut-être que à l'avenir, ça, ce serait un bon souvenir. Et j'ai eu raison parce que quand je retombe dessus, tu te dis, on faisait ça, on avait 6 ans, mais c'est dingue.
C'est toi qui lui as racheté,
complètement débile.
C'est toi qui lui as acheté les.
Je lui ai racheté son carnet qu'il voulait le jeter. Je lui ai dit, non, moi je le garde, c'est cool.
Et on se rappelle que Jean-Marie Poiré a fait fortune parce que les visiteurs, ça vient d'un vieux cahier d'écolier. L'histoire, il l'avait écrit quand il avait 13 ans.
Ah,
donc
génial.
Si ça se trouve...
Bah, je vous laisse, je vais fouiller dans mes carnets, voir si j'ai pas une idée.
Un truc absolument génial.
À 5 millions d'entrées.
et par la suite, alors j'ai aussi une anecdote, c'est que au lycée, c'est là que je me suis mis un peu plus à lire. Et en lisant, j'ai un peu comme toi, Cécile, le fait de lire... pas d'apprendre à lire, mais de lire un peu plus des romans et tout ça. Ça m'a donné le goût de l'écriture. Et je me souviens qu'au lycée, on avait une prof de français qui était assez jeune, qui sortait de son école, quoi, de sa formation. Et elle nous a fait une fois un exercice où on pouvait raconter une histoire. C'était vraiment de la fiction. Quelques pages. Sujet libre. Et moi, je venais de voir le film Dark City, si ça vous parle, avec des immeubles qui poussent du sol et d'un univers assez SF, assez dingue. Et j'ai honteusement pompé cette idée-là, mais avec une histoire un peu marrante autour, un peu originale.
Une adaptation, quoi, c'est pas juste...
Voilà, une inspiration, on va dire. Luc Besson, si tu nous écoutes. il y avait des immeubles qui poussaient, enfin voilà, c'était un peu pareil, mais à ma sauce, et je me suis pris un 20 sur 20. Alors, je sais pas si elle a jamais vu le film ou quoi, mais du coup, j'ai trouvé ça cool. Alors, c'était pas une frustration pour le coup, je suis commencé avec un truc super cool, et après, c'était un peu plus la dégringolade peut-être, mais c'est une anecdote qui me reste par rapport à l'écriture, et après, petit à petit, c'est venu. Voilà, il y a 10 ans, je me suis dit, tiens, les scénarios, comment ça marche ? Un peu plus de 10 ans maintenant. Ah oui, ça s'écrit comme ça, on fait comme ça, d'accord. Bah, voilà, depuis un peu plus dans l'écriture pour l'image que les nouvelles et ce genre de choses.
Super, super tour de table.
On a chacun raconté notre vie.
Oui, alors donc ce qui est marrant, c'est qu'on a deux dessinateurs, donc Adrien et Mathieu, et donc deux personnes, Cécile et moi, on part nous vraiment des personnages. Et ouais, je crois que souligner quand même, encore une fois, que l'école n'aide en rien la créativité et même la bride, je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience actuellement, clair. Et ça, c'est très chouette.
Ok, on a tous raconté notre vie. On va enchaîner avec une autre question un peu profonde. On va repartir dans des débats philosophiques, peut-être. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous, la créativité ? Est-ce que c'est juste écrire ? Est-ce que ça passe par d'autres choses aujourd'hui ? C'est-à-dire, on n'est plus dans notre chambre avec nos Lego ou avec nos Barbie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous la créativité ? PF, t'as l'air parti dans des réflexions. Je sens que tu vas nous faire...
Oui, parce que tu sais quoi ? Je voulais regarder dans le dictionnaire ce que voulait vraiment dire créativité. Et j'ai complètement oublié avant de partir. Bon, lamentable.
C'est l'intention qui compte, c'est bien. Tu voulais préparer ce podcast, c'est plutôt intéressant.
Qu'est-ce que la créativité
en voilà, fait, vous avez deux heures.
Alors, donc moi, ma petite définition à moi, c'est simplement d'essayer d'éviter les clichés et de sortir des sentiers battus. En fait, par rapport à quelque chose que je vais avoir à imaginer...
Dans toutes les situations,
Ouais, dans toutes les situations, ou à écrire, je vais vraiment essayer d'aller le plus loin possible... c'est ça. Quand j'essaie d'être créatif, j'essaie surtout d'éviter les clichés.
Et ça peut être dans la création d'un site internet, comme tu es en train de faire, dont tu nous parlais tout à l'heure. Ça peut être là-dedans, ça peut être, mais pas que dans l'écriture en fait. Ça peut être dans la façon de se présenter à des gens, je sais pas.
Oui, mais là je te parlais vraiment de l'écriture. Je pense pas qu'il faille toujours chercher à faire le malin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend du cadre, ça dépend de l'objectif. Mais là, je te parle d'écriture. Moi, ce qui m'intéresse, mon grand kiff, en fait, c'est essayer d'imaginer des choses, des personnages, des histoires, des intrigues qu'on n'a pas encore vues, où le spectateur, et donc moi, en tant que premier spectateur, je vais vraiment être étonné, être surpris. C'est ça qui m'intéresse dans la créativité. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet, que j'ai lu des livres dessus et que je suis vraiment intéressé par la créativité de tout le monde, qu'ils soient des artistes, des sportifs, de n'importe qui en fait.
En gros, c'est la recherche de la bonne idée. C'est ça qui te pousse, qui t'intéresse le plus dans le processus créatif.
Oui, j'adore. D'ailleurs, à un moment, j'avais envisagé de créer un site... pour justement apporter des idées aux autres. La recherche d'idées, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus.
C'est-à-dire, tu fais un site et tu proposes tes idées dessus et
oui, sur n'importe quoi. Quelqu'un a besoin d'une idée pour, n'importe quoi, cherche une idée de cadeau d'anniversaire, comment surprendre sa copine, enfin n'importe quoi.
Il y a peut-être un créneau.
En fait, on aurait pu...
J'ai pensé à ça aussi, c'est marrant.
Ouais, je pense que pas mal de gens...
C'est rigolo.
Mais il y a 3-4 ans, j'y pensais sérieusement et ça n'existait pas encore, bizarrement.
Je crois que vous trois, après ce podcast, vous allez tous faire un site internet finalement. Ouais. J'ai plus qu'à trouver moi une idée pour aller faire mon site. Cécile, alors, l'écriture, c'est le seul moyen d'être créatif aujourd'hui, ça passe par quoi chez toi ?
Moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Avant, c'était vraiment la créativité pour moi, c'était vraiment le langage. C'est-à-dire qu'en gros, je racontais des histoires, enfin, je les disais.
Passait par l'oral.
Voilà, c'était toujours, l'écrit, enfin un truc analytique, quoi. De plus en plus, j'ai l'impression que je cherche à mettre en correspondance en fait plein d'arts différents. Enfin, quand j'écris, je vais pas forcément m'inspirer tout va m'inspirer, l'architecture, un film, la peinture, enfin n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que c'est pour moi maintenant la créativité, ça devient quelque chose de vraiment global. Alors qu'avant c'était uniquement j'écris, je pense et j'écris. Là, c'est plus je m'inspire, je prends en fait. Ouais, voilà, je m'imprègne davantage qu'avant. Enfin, mais je pense que c'est parce que j'ai de plus en plus l'habitude d'écrire et puis l'imagination aussi, ça a toujours besoin de se nourrir. Plus on imagine, plus on a besoin d'avoir des sensations, des émotions, des choses qu'on va essayer de tirer en fait de tous les arts qu'on nous propose en fait.
Toi Mathieu, du coup, alors, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je suis pas créatif du tout.
Non, ça c'est vrai.
J'ai rien à faire là.
Ouais, c'est ce que d'ailleurs, si tu peux.
Je vais vous laisser. Voilà. Merci, à plus. Je vous aime. Moi, la créativité, aujourd'hui, ça passe par plein de choses. Moi, on passe notre journée à écrire, donc forcément, ça passe par l'écriture. Mais je fais de la musique aussi. Ça me permet d'être créatif d'une autre manière, de créer des choses. Y a le dessin un peu moins. Ça m'arrive de gribouiller des choses, mais c'est pas ce que je fais de plus. Et surtout, j'ai l'impression d'être... La créativité, c'est un truc que j'ai l'impression de faire tous les jours, finalement. Quand je discute, même avec des gens, le fait d'avoir une discussion intéressante, de
faire des blagues aussi.
Voilà, j'allais le dire. De dire deux, trois conneries, pour moi, c'est être créatif, d'essayer de trouver le truc qui va être marrant à dire ou qui va un peu sortir d'une conversation un peu trop classique, où je m'emmerde parfois. Je vais pouvoir essayer de trouver un angle un peu plus fun.
J'ai l'impression que tu t'emmerdes souvent, alors.
Ah bon, t'es trop.
Non, c'est qu'il est très créatif.
Voilà, c'est juste ça. Je suis juste très créatif. Tu n'as rien compris, Adrien. Voilà, bon.
Mais c'est tout à fait vrai. L'humour, est-ce que l'humour serait pas la plus belle forme de créativité ?
Et alors, au risque d'être un peu lourd pour les autres, ce qui est forcément le cas, du coup, pour moi, la créativité, c'est tout le temps. C'est tout le temps, je cherche à dire des conneries. N'essayez pas d'avoir une conversation sérieuse avec moi, ça va être très difficile.
Ou même quand tu pitches, en fait.
Même quand je pitch, voilà. Bonjour, Valence.
Et toi, Adrien ?
Merci, Cécile. Non, moi, oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord avec PF sur le côté sortir des clichés, c'est de trouver de nouvelles idées. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu sur le fait qu'on l'est tout le temps, finalement, et c'est bien, tant mieux.
Est-ce que ça passe que par l'écriture ?
Non,
tu te sens créatif en faisant quoi ?
Ça passe par plein de choses. Moi, j'aimerais même que tous mes gestes le soient, en fait. Enfin, tout ce que je peux faire le soit, et... Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je sais pas, ça passe par le fait de prendre son téléphone et de faire des photos, tu vois, les mettre sur Instagram, c'est cool. Ça passe par le fait de faire de la musique complètement, ça passe par le fait de faire de la cuisine, je sais pas, la cuisine c'est un côté créatif,
oui, la cuisine,
c'est chouette.
C'est vrai.
Ça repose, et puis tu fais, tiens, je vais faire de nouvelles associations, ça peut être très chouette. En fait, on gagne tous à être un peu plus créatifs dans nos vies, je pense, et moi, encore une fois, je leur dis, c'est dommage qu'on nous incite pas plus à le faire. Du coup, on est dans cette recherche de savoir comment le faire, et du coup, c'est bien. PF, t'as ramené des livres, on va en parler, mais c'est vrai que. Il y a plein d'idées, plein de choses qui permettront d'être plus créatifs à l'avenir.
Et du coup, aujourd'hui, comment, moi je me demande, Cécile, PF, comment vous êtes créatif au quotidien ? Est-ce que vous avez des petites habitudes, des rituels, des exercices ? Ou est-ce que vous vous dites, il y a des horaires pour être créatif ? Comment ça marche chez vous, Pierre-François ?
Alors effectivement, je crois que pour être créatif, il faut d'abord s'observer. En fait, on est tous différents, donc c'est à chacun de trouver... ces petits trucs, ces petites méthodes qui vont faire qu'on est le plus créatif. Voilà, c'est à chacun de faire sa petite sauce. Bon, alors ma petite sauce, je pense qu'elle n'a pas grand-chose d'original à part deux ou trois petits trucs.
Parle-nous de ta petite sauce, PF.
Ouais. Alors, la petite sauce, on y va pour la petite sauce. Alors, moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne peut pas travailler la nuit. Alors, sauf si vraiment je suis dans le flux et que personne ne peut m'arrêter. Autrement, moi, je suis...
On vous renvoie au... podcast d'avant, voilà. Sur le fameux 48 heures.
Voilà, je suis performant le matin, même tôt le matin, quand j'aime bien être un peu en retard dans mon écriture, comme ça je me réveille tôt.
Tu veux dire, on est sur du 5h-6h ou...
Ouais, du 5-6h, oui.
Ouais,
du
5-6h. T'arrives à te lever 5h-6h,
ouais.
C'est bien.
C'est bien de se connaître hein, pour ouais. Être créatif,
ah, mais
justement.
Par exemple, en ce moment, je n'y arrive pas du tout. C'est-à-dire que là, je te dis que j'y arrive quand je suis en retard, quand j'ai un truc qui vraiment me plaît, quand j'ai un délai serré. Là, je me lève, même sans réveil, je peux me lever à 5h, 5h30, parce que je suis porté par le truc. Mais bref, bon, je suis du matin, donc ça, c'est parfait. Là, je ne peux rien écrire entre 14 et 16h. Donc, et après, je peux écrire entre 16h et à voir. Donc, je pense que savoir à quelle heure on est performant, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, les petits trucs un peu débiles, j'écris mieux quand je suis rasé. OK, c'est complètement débile, je sais. Je sais, et ça rejoint mon humeur. Alors, ce qui est très étrange, c'est que je me préfère avec... j'ai pas beaucoup de poils, donc j'aime bien, au contraire, ne pas être rasé. Mais quand je suis rasé, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. Je sais pas d'où ça vient. Donc là, j'ai un peu mélangé énergie et créativité, mais c'est évident que la créativité, c'est très lié à l'énergie.
Si des scientifiques nous écoutent, vous êtes les bienvenus pour essayer de comprendre pourquoi PF est plus,
tu
plus créatif quand il est rasé.
J'ai envisagé de me passer un rasoir qui ne serait pas branché pour voir si ce n'est pas le massage du visage qui fait que je me sens mieux. C'est passionnant.
Alors, est-ce que tes idées te viennent quand tu te rases ou c'est vraiment le fait juste d'être rasé?
Ah bah, comme Woody Allen
engendre ça.
Non, mais comme Woody Allen nous l'apprend, les meilleures idées, c'est toujours quand on les cherche pas, donc c'est toujours quand tu prends tes... Enfin, c'est vraiment un cliché, mais c'est vrai.
Bah, Aaron Sorkin et ses 4 douches par jour.
En plus, je crois.
Ah,
plus,
oui,
ouais, non, pour moi, dès qu'il y a une panne d'inspiration.
Ah, moi, j'y vais à fond sur les douches et les promenades. Ah, bah, c'est les deux clés de l'auteur, en tous les cas me concernant, c'est ça, c'est les promenades et les douches.
C'est vrai. Le fait de marcher, c'est vrai que physiquement, ça te...
Ah, je pense.
Ça te fait du bien... au cerveau pour trouver des bonnes idées, nouvelles idées.
On marche pas assez, Mathieu, je trouve.
Oui, dans notre petit bureau. On pense à Judith, à La Réunion, qui doit marcher sur les plages.
Ouais, coucou Judith.
Alors, est-ce que...
Je continue, vas-y. Je vais un petit peu vite, parce que bon, ça va...
Je sens que t'as plein de petits trucs que tu fais au quotidien pour trouver
des
idées créatives.
Le troisième, m'habiller en bleu. C'est-à-dire que je suis toujours habillé en bleu. Parce que il y a des couleurs avec lesquelles je ne peux pas écrire, par exemple le noir. Le noir, je suis dépressif quand je suis en noir. Je peux écrire en bleu, éventuellement en blanc. Le rouge, je peux pas. De toute façon, je peux même pas respirer quand je suis en rouge ou en rouge, je peux pas respirer.
C'est plus d'un scientifique dont on a besoin, c'est d'un médecin maintenant.
Alors donc voilà, m'habiller en bleu, j'ai remarqué que c'était important.
Sachez, chers auditeurs, qu'aujourd'hui, PF est rasé et habillé en bleu.
Voilà, il faut le préciser.
Oui, parce qu'en ce moment, il faut que je me bouge les fesses sur mon site, donc je fais vraiment le maximum. Alors autrement, j'ai une pierre fétiche qui est une coralline.
Ah, les pierres énergétiques ?
Oui, une pierre énergétique. La coraline, ça aide à la concentration.
Ah, c'est vrai.
Comme j'ai tendance à partir dans mes rêves, j'aime bien avoir cette pierre à côté de moi, donc de temps en temps je la touche, voilà, ça me fait du bien, ça me rassure.
Quelle couleur ?
C'est comme ça. Elle est comme une coralline, donc un peu marron, un petit peu marron-brun. Autrement, quand je fais, alors beaucoup plus classique, j'essaie de faire 5 minutes de méditation avant de me mettre à écrire. Je pense que ça fait du bien, bon 5 minutes parce que je suis vraiment nul en méditation. Mais je pense que c'est vraiment... je crois que beaucoup d'auteurs le font et je pense que c'est intéressant.
Comment tu fais ? Moi, ça m'intéresse, la méditation. Comment tu t'y prends en 5 minutes comme ça ? Tu te mets dans un état particulier ? Tu cherches quoi exactement ?
Alors, t'as deux méthodes. Soit la méditation classique, tu essaies de ne pas... de penser à rien. C'est-à-dire quand il y a une idée, tu la chasses et petit à petit, t'en as de moins en moins. Ou alors, beaucoup plus simple, tu te concentres sur ta propre respiration.
D'accord.
Et enfin, je fais une chose qui m'aide énormément, c'est que avant de m'y mettre, je fais ce que j'appelle depuis qu'on a ce podcast, parce que j'y réfléchis tout à l'heure. En fait, on va appeler ça la méthode du chef de gare. En fait, je me fais un planning d'écriture. C'est-à-dire, je vais me dire, bon, là, il est, disons, 7 heures. Je vais dire, de 7 à 8, il faut que j'ai écrit une page. De 8 à 9, une page. De 10 à 11, une page. Et de 11 à 12, une page. Voilà. Donc, je vais planifier ça. Et en fait, chaque fois que j'ai fini ma page, je regarde où j'en suis. Est-ce que je suis en avance ou en retard ? Et je mets le nombre de minutes... Par exemple, je suis en retard d'un quart d'heure, je vais mettre sur ma feuille moins 15. Donc, je suis en retard de 15 minutes. Et j'ai remarqué que, et je fais ça à chaque fois que j'ai fini une page, et j'ai remarqué que le fait comme ça, dans la tête, d'avoir une espèce de mini-objectif par rapport au temps, eh bien, ça me donne beaucoup d'énergie.
Et de créativité.
Et aussi de créativité. Voilà, voilà.
Donc c'est la contrainte temporelle qui te stimule à terminer.
Je sais pas, ça m'amuse. C'est le côté ludique, savoir, ça m'amuse, je sais pas.
Donc t'es beaucoup dans les rituels, dans les habitudes. Ça marche bien pour toi, c'est bien de se connaître. Tu sais à quelle heure t'es plus productif et plus créatif, etc. Et je renvoie du coup la question à Cécile. Est-ce que t'es dans le même genre de fonctionnement ou t'es en roue libre totale et...
Non, je suis...
Ça vient quand ça vient.
Je suis vraiment dans le même genre de fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai des rituels, toujours à la même heure je me lève, toujours à la même heure je me couche, il y a un petit côté psychorigide, donc je ne reviendrai pas. Par contre, il y a une chose que je fais... Ouais, organiser.
Voilà, organiser, c'est quand même bien.
C'est ça, mais bon, j'écris tout le temps aussi. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que si j'arrête d'écrire, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'y remettre par la suite. Donc même le week-end, je me force à écrire au moins une heure ou deux heures. Il y a une chose que je fais, par contre, que ne fait pas Pierre-François, c'est que je vais aussi beaucoup penser à ce que je suis en train d'écrire au lever et au coucher. C'est-à-dire les périodes où je suis un peu flottante et où justement je suis pas trop dans l'hyper-contrôle. Et c'est là, souvent j'ai des bonnes idées en fait à ces moments-là. En fait, juste avant de m'endormir, je suis en train de m'assoupir. Il y a une chose aussi que je fais un peu comme Pierre-François, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que quand j'ai un truc à écrire, donc je me donne à peu près 8 semaines semaines en général pour sortir quelque chose. Et je vais faire un tableau d'attaque de tous les livres que je vais devoir lire et tous les films que je vais devoir voir qui sont en rapport avec le sujet ou même, comme je disais tout à l'heure...
Des sources d'inspiration.
Voilà, des sources d'inspiration qui vont pouvoir me faire rebondir.
Ça, c'est ta phase recherche d'idées.
Oui, c'est même pour baigner, c'est peut-être pas forcément pour piquer des idées, mais c'est pour baigner dans une certaine atmosphère. Enfin, voilà, par exemple, je sais que si je fais de la comédie, je vais essayer de... je vais pas aller lire la comédie d'Aristote, mais de toute façon, elle n'existe plus, mais voilà, je vais essayer en fait de regarder toujours des livres ou des films comiques. Et il y a une dernière chose, mais ça, c'était pour le clin d'œil. En fait, c'est le côté douche aussi. ça, c'est...
C'est pour ça que tu es toujours très propre, Cécile.
En fait, mais alors, c'est assez marrant. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi, c'est même quand j'ai une bonne nouvelle. Par exemple, je sais pas, un bon mail, un producteur qui répond à un truc.
Ça avec une douche ?
Je fais ça avec une douche.
Allez,
hop ! C'est la fête.
J'espérais me tromper en disant ça.
Non, je pense qu'on l'a tous pensé. Hein.
Pourquoi pas, hein, si y en a, ils se font un bon resto.
C'est une bonne douche. Voilà.
Ils dépensent de l'argent. Voilà,
ça, c'est parce que je pense qu'en fait, on est près des bacs à douche. Comme on travaille chez nous, c'est, en général, c'est, je pense que c'est pour ça.
Alors, si tu reçois une bonne nouvelle au bureau, tu fais comment ? Parce qu'ici, on n'a pas de douche, tu sais.
Ouais, mais
on a
un
lavabo en
Ah, c'est pour ça que tu passes un peu de temps.
Voilà, si vous avez remarqué, effectivement.
En bas,
que...
Ok.
Et à deux, alors, est-ce que vous avez vos petits rituels à deux, Adrien et Mathieu.
Est-ce qu'on a des rituels, nous ? Moi, je tape Adrien et il écrit. C'est un rituel, voilà. Bon,
c'est même plus un rituel, quoi.
C'est une habitude. C'est une tradition. Des rituels... on a un bureau, on a des horaires. On essaye de s'y tenir et on essaye d'être là. Ouais. Quand on est là, d'être le plus là possible. C'est-à-dire pas s'éparpiller, même si on a des périodes où on démarre, il est 11h, il est midi, alors qu'on était là, on est là depuis 9h. Ça peut arriver. Après, une fois qu'on est dedans, on est dedans.
Ça fait partie du processus parfois créatif de se mettre dans l'ambiance aussi. Quoi. Ça prend un peu de temps, mais des fois, c'est nécessaire pour revenir.
La créativité passe en tout cas chez nous, par des horaires. Le fait d'être organisé un peu comme toi, PF. Parce qu'on a un bureau, parce qu'on l'a de tel jour à tel jour, parce qu'on sait qu'on est là de telle heure à telle heure. On ne va pas venir à 4h du matin. Et en plus, on est deux. Donc, s'il y en a un qui est super productif à 4h, mais que l'autre ne l'est pas du tout, ça ne va pas marcher. Enfin, ça n'aurait pas pu marcher comme ça marche depuis qu'on écrit ensemble. Ça passe beaucoup par la discussion, la créativité. On discute beaucoup quand on a un problème, quand on a une idée à trouver. Ça passe par la discussion et on règle les problèmes à l'oral, en fait. Et avant d'écrire quoi que ce soit, on discute beaucoup. Et la recherche d'idées, la recherche d'inspiration, tout ça, ça passe par la discussion. Parfois, on regarde quelque chose, on a lu quelque chose, un article, un film,
vrai,
etc.
Ouais.
Et on en parle. On se dit, là, est-ce que ça... Est-ce qu'il là, il n'y a pas quelque chose qui est en commun avec ce qu'on recherche, etc.
Est-ce que vous utilisez, comme Cécile, et d'ailleurs moi aussi je l'utilise, effectivement le sommeil, les rêves, pour nourrir votre créativité, genre par exemple, se poser une question quand on est bloqué, moi aussi je fais aussi des siestes, quand on est bloqué, on peut s'endormir sur une question et ça peut débloquer parfois. Est-ce que
j'ai jamais fait ça. Mais...
Non, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on va faire un tour dans le quartier. On dit bon là on en a marre, ça fait une heure qu'on bloque là-dessus, on va faire un tour, on marche un peu et on revient peut-être avec une solution. Moi des fois en rentrant le soir, je suis en scooter, sur mon scooter j'ai des illuminations. Voilà, on a bloqué toute la journée sur un truc et à mi-chemin je suis là mais en fait mais merde mais c'est simple, c'était ça. Mmh. Et le lendemain ou alors si j'ai pas oublié voilà le soir j'envoie un mail ou le lendemain on s'y remet avec ça en tête.
Et toi Adrien ?
Moi j'essaye de... J'ai envie d'être plus créatif encore que je le suis. Je sais pas ce que je vaux vraiment, c'est pas ça la question, mais j'ai envie aujourd'hui d'être dans un élan plus créatif, enfin au quotidien, vraiment de l'être vraiment le plus souvent possible.
Partage-nous tes rêves, Adrien.
Et du coup, voilà, j'essaye de... Tous les matins, je m'impose, là je l'ai repris, mais j'ai fait ça pendant longtemps, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, les pages du matin. Maintenant, je les fais numériquement, parce que comme ça, j'ai tout centralisé sur un logiciel, mais je m'impose, dès que je me lève, ou allez, dans les 5 minutes qui suivent mon réveil, d'écrire soit 3 pages, soit une demi-heure. J'écris en général tout ce qui me passe par la tête.
Je veux pas balancer, mais il a fait ça ici ce matin à 9h. Hein.
Ouais, parce que ce matin j'étais un peu j'étais vraiment, la tête dans le cul ce matin. C'était quoi ?
Ah, moi je balance. Hein.
Mais j'essaye vraiment de le faire, l'imposer. Et ça, voilà, c'est un très bon truc, ça me permet de libérer l'esprit. Et sinon, le jeu vidéo, un peu de jeu dans la journée, ça fait du bien. Et ça permet de se lâcher, d'aborder encore d'autres choses différentes. Oui,
je pense que ça serait bien. PF. Ça serait bien que tu nous dises ce que sont les pages du matin.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les pages du matin, c'est simple, c'est Julia Cameron qui raconte ça dans son ouvrage Libérer votre créativité. C'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé à tous les gens que j'ai rencontrés, enfin, dès que je peux, j'en parle.
Je confirme.
Voilà. L'idée, c'est le matin, on se lève, et le plus tôt possible après le réveil. Au moment donné, dans la journée, on est le plus... on est en éveil, donc on a encore... le monde, tout est frais, en fait. Voilà, rien, il n'y a pas eu d'événement, donc on est...
Notre cerveau est disponible.
Voilà, notre cerveau est disponible, tout à fait. Alors, on se fixe devant trois feuilles de papier ou un ordinateur. Et là, on écrit vraiment tout ce qui se passe par la tête, tout ce qui vous passe par la tête.
Et c'est trois pages.
Et c'est trois pages.
Et pas une ligne de plus.
Pas une ligne de plus.
Et pas une ligne de moins. C'est le principe.
C'est le principe. Après, je pense que ça s'adapte. Hein.
Et il n'y a pas de lipide. On parle de tout et de rien, de tout ce qui nous passe par la tête.
C'est ça l'idée.
On se vide la tête et on attaque la journée avec quelque chose avec un esprit un peu plus frais, un peu plus libéré de toutes ces pensées qu'on peut avoir au réveil sur un problème, sur quelque chose. Au moins, ouais. On met ça de côté. C'est un genre de psy de poche, quoi.
Ouais, ce qui est bien, c'est que ça fait apparaître tous nos blocages et ça permet aussi de résoudre des problèmes qu'on a eu, qu'on a soit dans notre vie quotidienne, soit qu'on a dans nos projets. Par exemple, c'est simple, il suffit de se dire, ça s'appelle poser des questions aux pages. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Et souvent, tu as la réponse, en fait. Elle vient quand tu y réfléchis et tu l'aurais pas forcément eu si tu.
Et tu peux avoir aussi des nouvelles idées qui arrivent sans prévenir. D'un coup, tu dis, vu que tu es en train d'écrire et que ce que tu penses, tu dois l'écrire, tu peux penser à quelque chose qui te vient comme ça, une idée d'un scénar, un film, un truc marrant, et tu l'écris, en fait. Et tu peux après replonger dans tes pages pour aller piocher telle idée que tu as eue tel jour. Ça peut arriver aussi.
Ça, c'est top. Donc, c'est vraiment très bénéfique à tout point. C'est-à-dire que même si tu n'as rien fait dans ta journée, il y a des jours où tu dis, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui, c'est chaud, tu as quand même fait des pages. Bon, t'as quand même écrit trois pages, c'est pas énorme certes, mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Et sinon, j'essaye en plus de ça de m'imposer, alors là je vais m'y mettre parce que c'est un truc qui prend un peu de temps, c'est une petite routine du soir, genre une heure avant de dormir, essayer de faire quelques petits exercices, écrire deux, trois blagues comme ça sur un bout de papier, et pour m'améliorer quoi, voilà.
Alors je voulais vous parler justement suite aux pages du matin, je voulais vous parler de ce qu'Elisabeth Georges... l'écrivain spécialiste du polar raconte dans Mes secrets d'écrivain. Elle fait quelque chose d'un peu similaire et en même temps qui est un peu différent. Donc elle appelle ça le journal d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être sur un... Elle fait un journal d'auteur par roman. Et en fait, elle va, avant de commencer, écrire quelques lignes sur ce qu'elle ressent par rapport à l'écriture en cours. Et ça sert à quoi? Déjà, ça sert un petit peu comme les pages du matin à décharger une petite appréhension. Et surtout, ce qu'elle raconte très bien, c'est qu'ensuite, quand plus tard, un an, trois ans, dix ans après, elle est bloquée, elle relit en fait ses journaux d'auteurs précédents et elle voit qu'elle est déjà passée par des moments très difficiles, mais que finalement, elle y est toujours arrivée. Donc en fait, ça la rassure. Et moi, je le pratique un petit peu, ce journal d'auteur, et je trouve que c'est vraiment intéressant, ça fait du bien.
Comment ça se passe du coup? Tu retranscris tout ce qui se passe dans l'évolution du projet? Tu dis voilà, j'en suis, je bloque sur tel personnage.
C'est exactement comme si tu écrivais ton journal intime d'écrivain. C'est-à-dire, tu vois, avant de commencer ta journée, tu vas venir, mais exactement comme les pages du matin, ce qui te vient à l'esprit. En ce moment, le personnage de Marjorie, j'ai vraiment beaucoup de mal. De toute façon, ce nom est idiot. Marjorie, ça me fait penser à Majorette, ça m'énerve, alors qu'elle est charcutière. En même temps, peut-être que la charcutière peut être Majorette. Bref, tu vois, absolument n'importe quoi, mais qui évidemment a un rapport avec ce que tu es en train de faire.
Chouette,
intéressant. Le livre s'appelle ?
Alors donc le livre, oui, parce qu'il n'y a pas que ça dans ce livre, il y a plein de choses. Il s'appelle très justement « Mes secrets d'écrivain » d'Elisabeth Georges. Ça vaut 6 euros ou 7 euros, c'est en poche et c'est vraiment excellent. Donc justement, je vais en profiter pour vous raconter le rituel d'Elisabeth Georges.
Alors, PF prend d'assaut ce podcast, on n'a plus rien à voir là-dedans.
D'accord.
C'est parti, libre antenne à PF.
non, mais parce que voilà, parce que là on a vu entre nous, Cécile et moi, on fait quand même un petit rituel. Vous, très peu. Et d'ailleurs, moi, c'était pareil. Quand j'étais en duo d'auteur, il n'y avait pratiquement pas de rituel, sauf le fait de prendre un petit thé ou un petit café.
Est-ce que ce ne serait pas lié à ça, du coup ? La question reste ouverte.
Ah oui, je pense que c'est beaucoup plus facile. Très bonne remarque. Je pense que c'est beaucoup plus facile de démarrer quand on est deux. Quand on est seul... Bah, je suis désolé, enfin, en tous les cas, moi, malgré mon expérience, j'en suis toujours là. Il y a toujours une appréhension, toujours une peur, plus ou moins grande.
Un peu de rasage, un pull bleu, et c'est parti. Hein.
C'est
bleu ou vert,
ça.
selon
ce qui est incroyable, c'est que, ce que je voulais vous dire juste sur Elisabeth George, c'est que ce qui est incroyable, c'est que c'est un auteur qui est hyper connu, qui a vendu des millions de livres. Et voilà, elle a toujours autant peur, en fait. Alors voilà son rituel. Elle se lève à 6 heures, puis donne à manger à son chien et prend des vitamines. Ensuite, elle fait une demi-heure de vélo et 35 minutes de musculation. Et lorsqu'elle pédale, elle lit plusieurs livres. Ensuite, elle fait 10 minutes de méditation.
Ah, sur son vélo d'appartement.
Oui, son vélo d'appartement.
Ok, j'avais une image en tête qui était assez bizarre.
Oui. Effectivement.
Est-ce que tu peux écouter des livres sur ton
vélo
sur la
route ? Non, elle les lit. Trois différents, en plus. Trois différents. Ensuite, elle fait 10 minutes de méditation. Ensuite, elle organise le travail de son assistante. Ensuite, elle lit 15 minutes d'un grand roman classique. Ensuite, elle parcourt, ce que je vous racontais tout à l'heure, son journal de roman précédent. Ensuite, elle écrit quelque chose dans son journal de roman actuel. Et enfin, elle attaque.
Enfin, elle va se coucher parce que la journée est terminée.
Ben non, il est 9h. Il est à peu près 8h30, 9h. Donc, elle a 2 heures. Elle a en gros 2 heures
de
routine parce qu'autrement, elle ne peut pas s'y mettre.
D'accord. Moi, bon, c'est quand même complexe. Est-ce que, moi, je me demande... Est-ce qu'en enlevant un élément de tout ça, ou deux, ou trois, petit à petit, est-ce que c'est pas finalement pareil ? Je me demande.
Alors, Elisabeth,
chacun est différent.
Tout le monde est différent. Elisabeth, qui est quelqu'un d'hyper modeste et que vraiment que j'aime beaucoup à travers ce livre, bah justement, elle dit qu'elle en est là. Elle a besoin de tout ça, qu'autrement, elle va pas y arriver.
Après, on peut ressentir un besoin de ce genre de choses parce qu'on y a pris du goût et l'habitude, mais est-ce que ça a vraiment une influence ? Sur la créativité ?
Elle en est persuadée, donc.
Il faut lire le livre pour savoir.
Non, je pense que le plus important, c'est qu'elle en soit persuadée, en fait.
Enfin, ah oui, c'est ça qui compte, en fait.
C'est une sorte d'un truc magique, quoi. Voilà, pour devenir créative, je dois faire tout ça. Enfin, je trouve ça... Mais ce qui est marrant, c'est
si ça marche,
que c'est
minuté, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est minuté à la seconde près, ouais. Enfin, visiblement.
Bah, on retrouve dans ce qu'elle propose ce qu'on fait à peu près tous au quotidien. On se lève à des heures raisonnables,
on lit des livres,
on va faire des pages du matin pour se libérer l'esprit, puis on va faire un peu de méditation aussi. Enfin, tout ça, c'est des
on donne du travail à notre assistante.
Voilà. Ça, c'est le seul truc qu'on ne fait pas. Mais... Cécile, d'ailleurs, on pensait justement...
Je suis déjà votre assistante, non ?
Tu voulais dire quelque chose, PF ?
Il y a un point, j'ai oublié de dire le plus important, ça c'est vraiment mon credo, donc je saoule tout le monde avec ça, c'est surtout zéro média avant d'écrire. Pour moi, c'est le plus important, me concernant, et je crois que c'est le cas de vraiment tout le monde, c'est-à-dire avant d'écrire, pas de télé, pas de radio, pas de journaux, même idéalement pas de livres, évidemment pas de Facebook.
On est mal barrés, nous.
Pourtant, les journaux peuvent être une source d'inspiration.
Alors les journaux, bon, éventuellement, mais en tous les cas, je pense que démarrer la tête vide évite, à mon avis, l'appréhension et les blocages. En tous les cas, me concernant, c'est sûr.
Après, il y a une distinction aussi entre la créativité dans le côté recherche d'idées, où là, effectivement, lire ce qui s'est passé la veille, etc., ça peut donner des idées,
ouais,
des faits divers, etc.
Stimule.
Et la créativité dans l'accomplissement de quelque chose que tu es déjà en train de faire.
Oui.
Où effectivement, il vaut mieux pas être perturbé avec des nouvelles idées ou avec des actualités, des mails et des choses qui peuvent te prendre l'esprit plutôt que d'être sur ton projet. Donc c'est peut-être deux choses différentes.
Oui, là je te parle d'un cas où tu es dans une écriture en cours, évidemment.
Okay.
Pas quand tu es dans une recherche.
Alors en préparant ce podcast, on est tombé sur un article qui liste les 18 choses que les gens créatifs font différemment. Alors je vais vous les lire, vous allez me dire, on va faire un petit tour de table, vous allez me dire si ça vous parle. En premier, les gens créatifs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rêvassent. Est-ce que tu rêvasses, Pierre-François ?
Bah, moi j'ai des gros problèmes de couple à ce sujet. Donc,
Ok. Cécile ?
Voilà. Ouais, c'est pareil.
Tu rêvasses ?
Ouais, je rêvasse beaucoup.
Ça,
ouais.
ça te coûte ?
Non, ça me coûte pas, j'adore, mais ça me coûte du temps par contre. Mais...
D'accord. Donc, tu confirmes ?
Ouais.
Tu rêvasses ? Adrien, ouais. Tu rêvasses ?
Tout le temps.
D'ailleurs, tu reviens là, je te vois en train de les yeux dans
le vide. Oui, j'étais complètement parti. Là.
Bon, j'avoue, moi aussi, j'ai des moments de flottement.
Hier, j'ai oublié le poisson au supermarché, quoi, c'est vous dire. J'ai acheté du poisson et je ne l'ai pas pris. Voilà, je pense à autre chose.
Super.
J'ai oublié plusieurs poulets au marché.
Ah, c'est...
Ok.
C'est chiant parce que tu rentres, tu dis merde, putain, fais chier quoi.
Alors, les...
Je vois qu'on a les mêmes problèmes de couple, ça me rassure.
Alors, dans la liste, en numéro 2, nous avons les gens créatifs observent tout ce qui est autour d'eux. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, Cécile ?
Ouais, tout ce que je connais pas en fait.
Arrête de me regarder comme ça. Tu m'observes, je le sens.
En fait, je te scanne.
Voilà, tu scannes. Toi, tu scannes.
Alors, je scanne les âmes. Tu sais, le truc de.
Truc un peu flippant.
Un peu flippant.
Ouais, moi, j'ai l'impression de poser des questions tout le temps aux gens. Dès qu'ils font un truc, je veux savoir. Mais bêtement, comme un enfant. Quoi. Ah ouais, c'est quoi
ça, c'est la curiosité.
Tout le temps, ouais, j'ai besoin d'être tout le temps comme ça.
Mais alors, rigolo. Ça, on y vient.
Ah, c'est pas.
Là, c'est vraiment observé.
Observation.
Ouais, tu regardes, oui, oui. Tu dis tiens, un oiseau qui fait ça. Moi, je vous dis ça parce que j'ai des oiseaux en face de moi. EPF. Que tu observes,
moi, plus, je me sens plus curieux qu'observateur. Par exemple, j'ai un sens d'observation qui est assez nul, en fait. C'est-à-dire que comme je suis souvent dans la Lune, évidemment, je ne peux pas voir vraiment ce qui se passe puisque je suis ailleurs.
D'accord. Donc le point 1 et le point 2 sont incompatibles chez toi.
Presque.
D'accord. Alors, en numéro 3, nous avons les gens créatifs. Ils travaillent aux heures qui les arrangent.
Ah, bah, on vient d'en parler.
On vient d'en parler. Ouais. Ce qui n'est pas vraiment notre cas.
Ouais, moi, pour le coup, non. En fait,
tu travailles pas aux heures qui t'arrangent ?
Bah, j'aime pas tellement travailler en soi, donc honnêtement, c'est pas très naturel de prendre un clavier. Enfin, moi, je me force à écrire. Enfin, je sais pas si vous...
C'est un autre débat.
Ouais, c'est un autre débat, mais moi, c'est de l'artisanat, hein. c'est pas de l'art.
Adrien ?
J'ai oublié la question, j'étais en train de rêvasser.
Oui, les gens créatifs travaillent aux heures qui les arrangent.
On est freelance, donc on fait ce qu'on veut. Après, c'est vrai que je sais pas, peut-être que je travaillerai mieux le soir, sûrement la nuit, mais je peux pas le faire en fait. C'est compliqué.
Essayons peut-être un jour une session nocturne.
Essayons une session
nocturne.
Ça peut
être bien fun.
Ouais,
on vient tous la nuit, on
on essaye, on se fait une.
On se pose ici et on écrit chacun. On compare après le nombre de pages.
Non, mais je me souviens, tu me parlais, Mathieu, une fois d'un auteur que tu connais qui s'enferme des fois dans des maisons pour écrire ses romans. Mais je trouve ça génial, en fait. Je me dis, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, s'enfermer avec quelqu'un ou plusieurs personnes ou tout seul et te dire, ok, là, tu travailles vraiment, tu te prends tes vacances, tu fais tes horaires que tu veux et hop, tu rends un truc, quoi.
Oui, c'est ça, il part une semaine, il s'enferme dans une
génial.
Maison au fin fond de la campagne,
et
il déconnecte.
Du métal à fond, c'est ça.
Il écoute à fond du métal et il écrit un roman en une semaine, un roman de fantasy, de SF, des trucs assez barrés.
C'était un peu la méthode de Simenon. Simenon, il faisait ça, il écrivait ses romans en 6 jours et il n'arrêtait pas pendant 6 jours.
Ouais, génial.
Ça rejoint un peu le point suivant où l'article nous dit les gens créatifs prennent le temps d'être seuls. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous prenez le temps d'être seul ?
Moi, je ne le prends pas assez personnellement, mais.
Adrien ?
J'ai envie de le prendre plus. Je suis dans une démarche de le faire.
Mais t'es toujours en soirée, à faire des apéros, voir des gens, c'est sûr. T'es jamais seul.
C'est ma street life.
Cécile, est-ce que tu prends le temps d'être seule, toi ?
Oui. Ouais, parce, enfin, mais moi, je pense que c'est. Enfin, c'est lié à ma personnalité. Si je vois trop de gens, au bout d'un moment. Je sature.
Tu l'as vécu comment, le festival de Valence ?
Bah oui, justement, il y a une soirée où je me suis dit, oh, là, j'en peux plus, il y a trop de gens.
Et c'est là où il y avait plein, justement, des gens intéressants à rencontrer. Merde.
C'est la soirée où il fallait être.
Mais bon, c'est pas grave, enfin, tant pis.
Mais bizarrement, c'est la seule fois qu'à Valence, ça ne me l'a pas fait, alors qu'à chaque festival, je rentre lessivé, j'en ai marre. Et bizarrement, ça s'est bien passé. Bon, bah finalement, il était entre gens cool.
Était tous les trois.
Comme quoi, la drogue.
Voilà, ça aide.
Pierre-François, est-ce que tu prends le temps d'être seul ?
Non, c'est le contraire. Je trouve que je suis trop seul. Et justement, j'ai vraiment envie de voir plus de gens que je n'en vois.
On mettrait une petite musique avec un violon.
Oui, complètement.
Très triste. Liste de Schindler, par exemple.
Ou le pianiste.
Alors, les gens créatifs contournent les obstacles de la vie. C'est beau, ça.
Bah, moi, je dirais, c'est pas vraiment une. C'est plutôt, ils contournent les obstacles à leur manière. C'est plutôt
de façon créative.
De façon créative, voilà. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a un souvenir
est-ce
d'un obstacle,
un exemple.
Ouais, un exemple, ouais.
Non, je crois pas que les créatifs soient plus intelligents que les autres. Parce que là, ça fait un peu. Bon, la phrase, je la comprends pas trop. J'aimerais savoir déjà vous comment vous l'interprétez parce que j'ai du mal.
Je sais pas, tu vas être bloqué dans la queue à un moment donné dans un supermarché et ça avance pas. Et disons que chaque personne face à une situation avec un obstacle réagirait de manière différente. Voilà.
Alors, physiquement,
ça c'est créatif.
Physiquement, déjà, je ne peux pas faire la queue. Par exemple, un des trucs qui m'angoisse le plus dans la vie, ça serait, mais je le fais pas, de faire la queue à une boulangerie. Tu vois.
Alors, qu'est-ce que tu
pour
fais,
moi,
du
c'est
coup
impossible. C'est absolument.
Alors, comment contournes-tu cet obstacle voilà de la vie ?
De toute façon, je suis pour les régimes sans gluten, donc.
Voilà, bah, c'est ta façon d'être créatif.
Non, mais ce que je. Voilà, non, mais sérieusement, je ne m'en rappelle plus de la question.
Comment grave tu contournes les obstacles de la vie ? Bah, tu nous as donné ta réponse, finalement.
Oui, oui.
Ensuite, on a les gens créatifs sont à la recherche de nouvelles expériences. Adrien, je sais que c'est ton cas.
La drogue de Valence, elle était super cool.
Merci Muriel qui nous a fourni. Voilà. Tout ceci est faux, bien sûr. Adrien, toi, t'es très nouvelle expérience.
Ouais. Bah, en fait, de plus en plus, j'essaye de faire des choses nouvelles, aller à des gens, voir des artistes que je connais pas, écouter des. Je me force à écouter de la musique que je connais pas et surtout très variée. Par exemple, je vais écouter des, je sais pas, différents registres de musique et je vais essayer de pas m'enfermer dans ce que j'aime le plus. J'essaye à chaque fois de me mettre un petit peu plus en danger. Je sais que c'est pas évident parce qu'on est toujours dans une position où on aime notre confort et ça c'est clair. Mais voilà, dès que je peux, j'essaye de le faire. Mais je sais que c'est pas évident.
Moi j'ai pris une carte Sésame pour aller au musée.
Ah oui, c'est vrai, super.
Et en fait ça me pousse à l'utiliser et à aller voir des trucs que d'habitude j'irais pas voir. Et si ça me plaît pas, au moins je découvre des choses. Bon, alors, c'est pas super funky comme nouvelle expérience.
Hein. C'est une expérience.
Mais
hein,
voilà.
On peut dire que chaque chose nouvelle que tu fais est une expérience. Enfin, voir un tableau, c'est une expérience. C'est sensitif, quoi.
Alors, Cécile, est-ce que tu es à la recherche de nouvelles expériences?
Peut-être un petit peu moins maintenant, quand j'étais un peu plus jeune, ouais. Je voyageais beaucoup. Enfin, j'essaie de voyager toute seule, donc forcément, ça fait rencontrer des gens. Enfin, et puis des nouvelles expériences, ouais. J'aimais beaucoup mettre en danger. Enfin, j'aimais beaucoup. C'était pas une recherche de plaisir, mais pour me sentir vivante, voilà, il fallait que je me mette en danger. Ouais.
Pierre-François ?
Alors, moi, j'aime bien en ce moment, là, ça m'a pris depuis quelques mois, je me dis, j'ai envie de voir des films vraiment différents, c'est-à-dire voir des tout petits films qui sortent dans 2-3 salles. Donc, à ce niveau-là, ouais, je suis en ce moment dans une phase où j'ai envie d'expériences cinématographiques, des trucs bien barrés, tout ça.
D'accord. Autre point, point suivant dans la liste, ils échouent, entre guillemets.
Ouais, complètement. On échoue tous les jours.
Ouais, c'est un peu obligé, en fait.
Un peu obligé,
dans,
ouais.
Dans les métiers créatifs, c'est pas pavé de succès, en fait, le chemin du créatif.
Oui, et puis je pense qu'en fait, c'est pas forcément. Enfin, pour échouer. Ouais, pour le coup, pour échouer, je suis pas sûr qu'il faut être créatif. Hein. Je crois que n'importe qui peut échouer.
Je pense que c'est pas tant échouer que savoir rebondir d'un échec et d'être capable de se dire, ok, c'est de l'autocritique, se dire, ok, c'est mon apprentissage, c'est pas quelque chose de définitif. Moi, je pense que c'est pour apprendre à être moins autocritique.
C'est lié à un point qui va venir, mais ouais. je vous le donne pas tout de suite. Il y a aussi, on en parlait, il pose les bonnes questions.
Ah oui, la curiosité, bien sûr.
Ouais. C'est ça, c'est poser les bonnes questions aussi. Quelqu'un te parle de son travail plutôt que de poser des questions que d'autres poseraient, tu vas poser des questions un peu différentes.
Mais c'est marrant parce que quand je passe du temps dans les soirées, je m'intéresse beaucoup aux gens, à ce qu'ils font, et c'est drôle, je remarque que plein de gens se fichent pas mal, enfin quand ils te demandent pas la même chose, ou quand ils te le demandent tu dis que tu fais ça et ils survolent, ah c'est bien, et puis ils se barrent, enfin tu voilà.
En fait ils s'en foutent.
Ils s'en foutent, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent globalement, enfin je dirais que les gens sont pas toujours très curieux, mais c'est dommage, mais bon après c'est la vie hein.
Ouais, là je te rejoins complètement, je suis complètement d'accord. Moi quand je rencontre quelqu'un qui a une profession un petit peu spéciale ou qui vient d'un milieu professionnel que je ne connais pas du tout, effectivement, mais naturellement et parce que j'ai vraiment envie, je vais vers lui et je lui pose effectivement un maximum de questions, mais pas dans le but d'écrire un personnage.
Oui, non, c'est ça.
C'est parce que sincèrement, ouais, ça m'intéresse.
Ouais. Ah, c'est marrant.
D'accord.
Vous faites ça vous aussi ou Mathieu ? Toi, t'aimes pas trop les gens, Mathieu, de base, donc c'est vrai que c'est peut-être...
Voilà, compliqué. Voilà, tu sais très bien. Moi, je parle à personne. Je parle juste dans ce micro aujourd'hui.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais quand quelque chose m'intéresse, évidemment, j'ai envie de tout savoir aussi. Plus par moi-même, c'est du coup, je pose les bonnes questions, mais pas à des gens, finalement. Je suis plus dans l'apprentissage autodidacte, donc dans la recherche de réponses de mes propres questions et par mes propres moyens. La plupart du temps. Mais effectivement, ça peut m'arriver de bombarder de questions pour connaître un point précis, parce que je sais que voilà, ça titille ma curiosité. C'est lié à la curiosité, finalement. Cécile, tu voulais ajouter quelque chose ?
En fait, moi, je pose des... Alors, je sais pas si je pose les bonnes questions. En tout cas, je pose des questions. Mais je pense que c'est plus parce que je suis assez réservée et de poser des questions à quelqu'un et de le faire parler, ça me permet, moi, de ne pas mettre sous les lumières, quoi. Donc,
je préfère poser des questions que donner des réponses.
Que donner des réponses, exactement.
D'accord. Alors, ça rejoint un peu ce point-là. Les gens créatifs observent les gens.
Bon, ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure.
C'est un peu ça. Ouais. Alors, ils prennent des risques.
Voilà. Ça, c'est cool.
Stéréo.
Ouais.
Ils prennent des risques. Est-ce que vous prenez des risques, les amis ?
Bah, je dirais qu'en faisant ce qu'on fait, on prend des risques tous les jours. Hein. Ça, pour le coup, ça, on ne pourra pas nous l'enlever. On peut l'enlever à personne de créatif.
En faisant des podcasts de plus d'une heure sur la créativité, on prend des risques. Là, on prend un risque. Hein. À cette heure-ci, plus personne ne nous écoute.
C'est clair.
Pierre-François ?
Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est prendre des risques, oui, c'est la...
C'est un peu la base.
C'est l'essence du truc. Donc c'est pour ça que je le formulerai pas comme ça. Je crois pas que on va pas rencontrer un scénariste ou un auteur qui va dire oh là je suis en train de prendre des risques. Il le ressent pas lui-même. il fait son truc. Quoi, ouais. Effectivement, quand on a du recul, on dit « Ah bah oui, c'est vrai qu'on va prendre des risques. » Après, je crois qu'il y a deux niveaux. Au niveau financier, c'est-à-dire effectivement, on prend souvent des risques au niveau financier. Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Et puis, tu as un autre niveau, et à mon avis, qui n'a rien à voir, c'est dans ton écriture, dans ce que tu es en train d'écrire, par rapport à la commande, est-ce que tu es en train de prendre des risques ou pas et jusqu'où il faut en prendre ou pas?
Bah, quand tu t'engages sur quelque chose, tu prends toujours un risque. C'est ça qui est fort, je pense.
Mais de base, si tu es dans un métier, une activité créative, la base de ton activité, c'est la prise de risque.
Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai l'impression que oui, tu as raison. Toi, tu vas prendre des risques. Les auteurs vont prendre des risques. Mais quand tu vois, par exemple, que si tu veux écrire, par exemple, tu veux écrire pour TF1. Pour l'instant, tu n'as pas écrit de téléfilm pour TF1, tu veux écrire pour TF1 parce que tu as un super sujet, un super projet, tout ça, qui correspond pile à ce qu'ils veulent. Tu ne pourras pas écrire pour TF1. Pourquoi? Parce que à TF1, et c'est à peu près pareil pour France 2, un peu moins, mais... bref, tu as des auteurs labellisés, c'est-à-dire des autres, ce qu'on appelle dans le métier des auteurs TF1, c'est-à-dire des auteurs qui ont suffisamment d'expérience, qui ont suffisamment écrit pour TF1 pour qu'ils soient acceptés par TF1. Donc oui, toi, tu vas peut-être prendre des risques, mais je peux te dire que il n'y a rien de plus conservateur à côté de ça que notre belle profession.
Ouais, en fait, mais je me dis que...
Petite digression,
qui...
intéressante.
Ouais. Mais je me dis, en fait, moi, ceux qui ont réussi à arriver, en fait, à être labellisés, même s'ils ont trouvé, maintenant, c'est un petit peu les fonctionnaires du scénario, mais je me dis qu'ils ont quand même pris énormément de risques, puisqu'ils se sont fait tellement refouler avant pour arriver... Enfin, même, ne serait-ce, tu vois, j'ai pas de mépris pour quelqu'un qui travaille pour TF1, parce que je me dis que pour arriver là, il a dû bien galérer pendant 10 ans. Donc les risques, en fait, il les a pris. Alors maintenant qu'il soit devenu fonctionnaire du scénario, il est labellisé, c'est
tant mieux pour lui, hein.
Tant mieux pour lui, voilà.
On est très contents.
Ah, mais c'était absolument pas péjoratif, ouais, dans ma bouche, hein. C'était juste observer le fonctionnement.
Oui,
c'est
d'accord.
Différents niveaux de prise de risque. C'est une prise de risque différente, ou en tout cas qui intervient tôt, et une fois que t'es dans une routine un peu confortable, peut-être que tu peux prendre moins de risques aussi, mais,
oui, mais y a toujours
ça enlève pas ta créativité.
Ouais. Mais quand t'es auteur et que tu écris Camping Paradis, tu prends quand même des risques pour ta santé mentale. Je pense.
Non, moi ça me plairait bien de le faire.
Ouais, pourquoi pas.
Mais tu prends toujours un risque.
Alors, on revient à notre liste. Pour les gens créatifs, tout devient une occasion de s'exprimer. Et bien, la preuve, on fait un podcast.
Voilà.
Voilà. Point suivant.
Ils réalisent leur vraie passion.
C'est un peu bateau, ça aussi, comme phrase.
Bon, bah voilà.
Est-ce qu'on réalise notre vraie passion?
Ouais, je pense. Hein.
Ouais, quand même.
Il y a pire que d'être ici à faire ce podcast, ou d'être à La Réunion en train d'écrire son film avec sa co-auteur.
C'est clair. Alors ça, j'aime beaucoup celle-là. Ça va te plaire, ça, Mathieu.
Les gens créatifs
sortent de leur propre tête. Bon, on avait PF qui partait dans la lune tout à l'heure, donc je pense qu'il a déjà répondu à la question.
Effectivement. Bon, rêvasser et sortir de sa propre tête, c'est un peu...
Oh, bon, j'imagine.
Est-ce que c'est pareil?
Enfin, j'imagine qu'il parle ici d'avoir suffisamment d'empathie pour...
Oui, j'allais le dire, l'empathie, ouais. Ouais, est-ce que c'est important? Ouais. Est-ce que vous faites preuve d'empathie? Bonne question, au passage. Quand vous rencontrez des gens, est-ce que vous êtes capable de vous mettre à leur place, de sortir de votre tête, ouais, c'est ça?
Moi, en ce qui me concerne, ouais, j'aime bien trouver des raisons, en fait, aux agissements. Pas forcément des gens qui sont très sympas, par ailleurs. Enfin, plus d'ailleurs, plus la personne est
pas sympa,
plus c'est drôle.
Plus c'est intéressant, enfin,
plus c'est intéressant à savoir pourquoi il fonctionne comme ça. Et...
Intéressant. Ouais. Mmh. Allez, PF, t'es chaud. Tu voulais dire un truc? Je suis sûr que c'est super intéressant.
Non, je voulais juste dire que, pour rebondir... c'est simplement que c'est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'à part quand tu crées un personnage, comme tu es obligé d'être à la fois pour le personnage et en même temps contre, c'est-à-dire quand tu veux appréhender toute la subtilité d'un personnage, évidemment que c'est inhérent au métier de scénariste d'être empathique, en fait.
Et de sortir de sa propre tête. Alors, les gens créatifs perdent la notion du temps.
Oui, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein.
On en a parlé dans le podcast précédent, où Pierre-François nous racontait ces tunnels de 48 heures d'écriture. Est-ce que c'est vraiment ça, la notion du temps?
Oui, mais ça, c'est vrai pour dès que tu as une activité, enfin, c'est un cliché, là, dès que tu as une activité qui te passionne, tu perds totalement la notion du temps.
Ou est-ce qu'on est dans une perte de notion du temps du type je suis toujours en retard parce que je suis créatif? Est-ce que c'est ça?
Tu peux le prendre comme ça aussi, oui.
Est-ce que vous êtes en retard en général? Vous êtes déjà en retard?
Non.
Vous étiez à l'heure hein, pour ce podcast.
Non.
Moi, je suis en retard. Enfin, je m'améliore, mais...
T'as tendance à être en retard, mais ouais. T'arrives à te corriger. C'est plutôt ça.
D'accord. Toi, t'es à l'heure, mais ça t'arrive d'être en retard.
Voilà. Moi, je suis à l'heure, mais je fais pas exprès, des fois.
Pas exprès, ouais.
Mais genre, à l'heure, pile poil.
Non, mais quand on est en écriture, quand on est dans la bonne vibration, vraiment, et ça, c'est le grand plaisir, quoi. On sent plus les minutes
voilà,
passées.
Voilà, on compte pas les heures.
Je pense que tous les... Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle les gens deviennent auteurs, scénaristes, écrivains. C'est parce que c'est un tel plaisir de ressentir ça qu'après, on n'a plus qu'une envie, c'est que ça recommence.
Mais on le ressent pas tout le temps, quand même.
Mais absolument.
C'est la recherche de ça.
On le ressent même rarement.
Exactement.
Rarement. Trop rarement.
Alors, les gens créatifs s'entourent de beauté.
Bah, je vais vous laisser. Hein.
S'entourent de beauté, c'est-à-dire...
Non, pas pour toi, Cécile, t'inquiète pas.
Parle pour toi.
Ont de bons goûts en décoration, en habillage, ce genre de choses. Est-ce que c'est le cas pour vous, Cécile ? Est-ce que tu t'entoures de beauté ?
Bah écoute, je vais être terre à terre, mais non. je m'attache pas tellement en fait, aux objets, donc... Bon, après, effectivement, je vais pas mettre une photo de cheval au galop sur mon truc. Enfin,
pourquoi
sur mon
pas
mur,
si
mais...
tu aimes les chevaux
ouais, s'ils sont beaux.
Ça dépend s'ils ont été trafiqués par Photoshop ou pas, s'ils sont roses. Mais non, ouais.
T'es plutôt licorne.
Plutôt licorne.
C'est ça.
Non, d'accord. Pas de beauté, moi.
Oui, c'est vrai, moi non plus, en fait. J'ai plutôt mauvais goût, en général. Regardez comment je suis habillé. Je suis pas très attaché à tout ce qui est décoration.
Et toi, Adrien ?
Moi, j'ai une conseillère en images, donc ça, c'est réglé.
Voilà.
Pour le style.
Donc tu t'entoures de quelqu'un qui aime s'entourer de beauté ?
Non, je m'entoure de gens qui sont beaux en soi, enfin je pense de belles personnes en fait, qui sont des gens positifs, qui sont...
On parle bien sûr de la beauté intérieure.
Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Pour moi la beauté elle est plus là, c'est vrai que je serais plutôt aussi quelqu'un dans le... très modeste dans la déco.
Et toi PF, est-ce que t'es entouré de beauté ?
Bah non, mais moi c'est exactement
à part les pulls bleus,
c'est-à-dire
je veux
dire. Que je...
À part
voilà,
les femmes.
Je...
T'es contraint à des couleurs qui marchent.
Non, finalement. Mais justement, moi je suis comme vous, c'est-à-dire par exemple je me fous éperdument de la façon dont je suis habillée, enfin... Non, ça m'intéresse très peu, en fait, tout ça. Donc, effectivement, j'aimerais bien savoir ce que cette liste veut dire, là. S'entourer de beauté, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ce que disait Adrien, la beauté intérieure ?
Le principe de ce podcast créatif, c'est de vous
D'accord.
faire partir sur des...
Okay, bon,
peu importe, tu iras voir sur le site si tu veux avoir des réponses.
De vous titiller.
Mais... Voilà.
Non, après... c'est plus la notion de... Quelqu'un de créatif aura une belle déco chez lui avec des tableaux de bon goût, ce genre de choses.
Ça, je trouve ça.
Dans
ouais,
cette idée-là.
Non,
après, les graphistes, hein, moi, les créatifs graphistes, je peux vous dire qu'ils sont, ils ont du goût.
C'est
hein.
Vrai.
Enfin, après, peu importe leur goût, mais.
Mais ça serait intéressant.
C'est parce
ça.
Que c'est des métiers plus liés à l'image. Alors,
voilà.
Nous, on est
voilà.
plus dans l'écrit,
nous,
dans
tout.
L'imaginaire, donc on est. Voilà, on se passe de ce genre de choses.
C'est peut-être pour ça, alors.
C'est peut-être pour ça. Voilà, on a peut-être.
Oui, un peu geek, hein, t'auras forcément des trucs Star Wars à la maison, hein, Mathieu. T'as ton petit R2D2.
Voilà, j'ai mon hub USB. R2D2. Les gens créatifs relient les points. Alors ça, c'est...
Ah, ça, c'est génial, parce que je vois pas du tout à quoi ça fait référence.
Tu sais, les petits dessins, tu relis
oui,
le 1, le 2, le 3, le 4, le 5.
Ah, un escargot.
Et après, voilà, ça fait Denver le dinosaure. Non, relier les points, c'est-à-dire tu associes deux choses et t'en fais une nouvelle avec.
Ah bah ouais.
Tu trouves des idées comme ça. Tu vois des choses là où les autres ne voient que deux points, toi, tu vois un troisième. Ou tu vois la ligne entre les deux.
Ça, c'est la base. Pour trouver une idée vraiment excellente, c'est très souvent, voire tout le temps, le mélange de plusieurs idées. Donc oui, alors là complètement.
C'est l'aspect Steve Jobs. Steve Jobs voyait des choses en associant des deux idées, voyait une troisième à laquelle personne n'avait pensé. Ou pas de cette manière-là. Est-ce que Cécile, tu relis les points de cette manière ?
Ouais, ça marche bien pour les pitchs d'ailleurs. Deux pitchs qui partent dans. Enfin, deux pitchs qui sont pas très bons deviennent un très bon pitch ensemble. Et, parce que tu relis bien les points. Et ça m'arrive assez souvent. Ouais, ça, c'est marrant.
D'accord, super. Ouais. Adrien, à part les petits dessins, tu relis les points ?
Ouais, non, pas spécialement.
Non, on te laisse gribouiller.
Ouais,
tu es en train de relier le 1 et le 2.
Voilà.
Vas-y, continue. Voilà, là, t'arrives au 2. Voilà, maintenant,
c'est
3. Voilà, doucement.
Attends, je suis sur le
non, coup. Ça c'est le 4, Adrien. Bon, on va pas passer une heure là-dessus. Les gens créatifs font bouger les choses. Les choses, pardon. Est-ce que tu... Cécile, tu fais... Non, t'as pas l'air de faire bouger les choses.
J'ai
non.
pas de don de télékinésie, donc...
D'accord, non, mais je pense que c'était ça, effectivement.
Ouais,
c'est ça.
Pourtant, je me concentre, hein, mais je dois pas être créative, parce qu'en fait, je m'entoure pas de beauté, je suis rien bougé, moi. Non, mais je sais pas, non, vraiment... J'ai pas l'impression de... Bah, après, je pense qu'il y a aussi les gens créatifs qui sont un petit peu gestionnaires. Enfin, moi, je vois, par exemple, ceux qui montent leur entreprise. Ou... Mais à mon niveau, je me dis que, pour l'instant, comme j'ai rien qui a été porté à l'écran, c'est difficile pour moi de... Enfin, voilà, de me dire, OK, je vais porter une super...
Mais est-ce que c'est plutôt dans le sens d'avoir des initiatives, de rassembler des gens autour d'un projet ? Comme nous autour de ce podcast, finalement. C'est peut-être oui, ça aussi,
faire bouger les choses. iTunes, t'inquiète.
Ouais, enfin, moi, je pensais plutôt en termes d'engagement, un truc comme ça. Non, enfin, pour l'instant...
Proposer des choses, proposer voilà. des projets, ouais. c'est déjà faire bouger les choses. À ton échelle, avec ce que t'as envie de faire, je pense.
Carrément.
D'accord. Pierre-François, est-ce que tu fais bouger les choses? Tu fais un nouveau site?
L'appellation un peu ridicule, mais... Oui, un petit peu, très modestement, avec mon approche du script jardinier, où j'essaye un peu de faire évoluer, de faire un tout petit peu bouger les choses. Je trouve que vous, sans vous cirer les pompes, Adrien et Mathieu, vous faites des choses, vous proposez des rencontres, des apéros scénarios, ce podcast... j'ai l'impression que vous faites bouger les choses.
Adrien, tu l'as fait le chèque?
Ouais,
je sais plus si on a fait le chèque ce mois-ci pour PF.
On est bon.
C'est bon.
Je voulais absolument refaire l'émission la fois prochaine.
là, c'est toi qui dois payer
pour revenir.
Pour revenir.
Ouais. Mathieu, tu nous as pas dit si tu faisais bouger les choses, toi, du coup.
Bah si, on fait bouger les choses, on fait des podcasts, on fait des rencontres.
Ah oui, c'est vrai.
C'est ça, en fait. Ouais.
Donc, consacres-tu du temps à la méditation?
Reviens sur tes points, je pense que t'étais plus efficace à relier. Là, t'es au 7, attention. Non, la méditation, voilà. Il consacre du temps à la méditation, on en parlait tout à l'heure, PF. Oui?
Moi, un tout petit peu.
Ça, c'est chouette, ouais, vraiment. J'arrive pas, j'ai essayé, j'ai beaucoup de mal avec la méditation. Je sais pas s'il faut que je m'entraîne plus ou faut que je le fasse
tout le monde a du mal.
C'est difficile. Hein. J'arrive pas à me mettre en condition. Il y a toujours des trucs qui viennent, il y a toujours du bruit. Enfin, je sais pas. Ça fait mal aux gens.
On en parlait tout à l'heure. T'es jamais seul. T'es toujours en train de faire de nouvelles expériences.
C'est ça.
Alors, forcément, tu pourras pas méditer. Bon, dans l'ensemble, il y a des points assez bateaux, mais finalement, on s'y retrouve globalement dans ces 18 points qu'on a vus ensemble. Bon, on est créatif, quoi. Ou pas, je sais pas. On n'a pas coché de case, en fait. On aurait peut-être.
Mais peut-être qu'en fait, en faisant une liste de pervers narcissiques, on serait tous tombés sur...
Oui, c'est ça.
C'est ça le problème des listes.
J'adore torturer leurs amis.
Un test psychologique. Ouais, oui, je scanne les gens, comme nous disait Cécile.
Non, c'était flippant, ça. Mais c'était une blague, hein. C'était une blague.
D'accord. Tu peux arrêter de me regarder, s'il te plaît?
Je vous propose
Cécile, arrête. Cécile, ferme les yeux.
On va les laisser.
Mais donc, toi, Mathieu, tu avais besoin de cette liste pour te rassurer sur le fait que tu sois créatif.
Exactement. Moi, il me faut.
Il fallait du ludisme à ce podcast, du coup. On s'est dit, tiens.
Non, je trouvais ça rigolo, voir si ça colle ou pas.
Ouais, c'est marrant.
Non, c'est très drôle. Ouais. Et puis, c'est bien, ça permet de rebondir.
Et on va rebondir avec une super citation que va nous lire Adrien. Écoutez ça, les amis.
Votre avis. On ne peut pas attendre que l'inspiration vienne. Il faut courir après avec une massue. Ce sont les mots de Jack London. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? PF, tiens.
Ça te fait penser à quoi?
Ça me fait penser à un auteur américain dont malheureusement j'ai oublié le nom et qui justement, disait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il insistait sur le fait que tout ce qui compte pour un écrivain, c'est de rester assis à sa chaise et d'écrire. Si jamais il n'y a rien dans ta tête, c'est-à-dire que tu n'as pas une seule idée, tu n'as pas un mot, il disait, ça n'a aucune importance, vous restez quand même assis. Tant pis, vous restez assis. Et ça, il faut continuer jusqu'à ce que quelque chose vienne, et quelque chose vient obligatoirement.
C'est un peu ce que tu fais, Cécile?
Je te
réveille, excuse-moi.
Ouais, j'étais en train de rêver.
en train de rêvasser.
C'est dur un podcast avec des gens créatifs, hein. C'est dur à gérer.
C'est ça, faut les rappeler à l'ordre sans arrêt. Tu disais que tu écrivais tous les jours, que tu même le week-end.
Oui, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que j'aimerais sortir de ça, justement. Parce que, comme disait là au-dessus, le sage ne lutte pas pour arriver.
Le sage
C'est bien, ça.
Ouais, c'est super, en fait. En fait, en gros, c'est-à-dire que je pense que tu as deux écoles. L'école du « je contrôle ». C'est ça. Je contrôle, je cherche. Et puis, tu as l'école du « je laisse venir la vie ». Et puis, je vois, en fait, tout est changement. Donc, je vois... J'essaye de prendre,
J'attends l'inspiration.
Ce changement, la vie.
Versus, je me lève à 7h.
Du coup, c'est intéressant ce que tu dis, Cécile. Mais nous, on fait des métiers, ou les gens créatifs font des métiers, où malheureusement, il faut... Enfin, c'est pas un malheur, mais il faut... pour moi, il faut courir après, parce que t'en as besoin pour vivre. Enfin, c'est ton métier. Donc, est-ce que tu peux te permettre, finalement, d'attendre que ça vienne ou pas? Moi, je pense que non, mais... C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de rituels et de choses comme ça. Si on a besoin d'être plus créatif, c'est important de s'entraîner à l'être, parce qu'au quotidien, on a besoin de nouvelles idées à vendre, on a besoin de nouvelles, sans arrêt, besoin de nouvelles idées pour écrire, etc. Donc je me dis, pour moi, le sage, c'est le mec qui est très bon et qui n'a pas besoin de ça, peut-être.
Comment je vois les choses maintenant? Parce qu'avant, j'étais plutôt du côté de Jack London, justement. Enfin, je vais chercher les idées à la massue. Là, actuellement, je me dis, ce n'est pas parce que tu laisses entrer le flux des choses que tu vas rester paresseux, rester sur ton lit, en fait, rester passif. En fait, tu peux très bien faire ça à l'aide de rituels. Enfin, c'est-à-dire que tu sais que de telle heure à telle heure, tu vas rêver en fait à ton projet. Parce que moi, j'étais plutôt dans les listes avant. Je me pose des questions, j'essaye de répondre. Enfin, toujours dans une espèce de lutte perpétuelle.
Très scolaire, en fait.
Un truc assez, ouais, très scolaire. Et c'est pour ça que je vois un petit peu ça, les idées à la massue. Pour moi, ça reste un peu mort. Enfin, on sent quand même le contrôle là dans cette phrase. Enfin, le gars veut contrôler les choses. Or, je pense que l'art c'est pas contrôler. Enfin, l'art pour moi c'est faire. C'est la vie rêvée. Enfin, l'art pour moi voilà c'est un bon film. C'est une image de la vie, mais rêvée. C'est-à-dire que il y aura des tas de symboles à l'intérieur qui nous mèneront vers une thématique ou vers une problématique. Mais elle aura été avant rêvée et pas je sais pas si je m'exprime bien là-dessus.
Pas
mais
du tout.
Voilà.
On va couper tout ça.
Donc on va couper.
Parce qu'en fait, ce que j'arrive pas à comprendre dans ce que tu dis, c'est que nous on est on doit sans arrêt fournir en fait de la matière, alors qu'on la cherche avec douleur ou pas. C'est peut-être là la nuance. Tu vois, quand effectivement tu me dis avec une massue, ça fait le côté genre il faut absolument que je trouve et que je lutte contre moi-même, mais ça peut être aussi effectivement comme tu dis, si je rêve, t'es déjà en train de chercher, t'es pas en attente en fait que quelque chose arrive.
Ouais. C'est pour ça que je disais que c'est pas, pour moi c'est pas passif lorsque on dit le sage ne lutte pas pour arriver, enfin merci là au-dessus. En fait oui, ne lutte pas, c'est-à-dire que ce n'est pas il y a rien de passif en fait, c'est simplement prendre le fil de la vie et faire en sorte d'en tirer l'essentiel en fait, en tout cas pour ce que tu es en train d'écrire.
Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de se connaître. Tu sais comment tu marches et comment tu as tes idées, tu peux être du genre à être bombardé d'idées à certains moments et t'as l'impression que c'est l'inspiration qui tape, mais en fait, si tu te connais et que ça arrive tous les matins entre 6h et 7h, eh ben, tu cours après une massue d'une certaine façon, mais en même temps, t'es sage aussi.
Voilà, c'est ça. C'est essayer de mixer les deux, parce que plus t'es dans le contrôle, moi, je me suis aperçu que quand j'essayais vraiment de contrôler les choses, j'allais avoir des films très conceptuels, mais sans personnages. Je sais pas si c'est... Par exemple, il y a des choses que j'ai... Bon, pour la science-fiction, ça marche très bien, ça, le concept. On n'a pas forcément... Enfin, comme Philip K. Dick n'écrivait pas de personnages, on va t'écrire des concepts. Mais sur... Quand je veux vraiment avoir quelque chose qui ressemble à la vie, en tout cas, tel que je la symbolise, je ne peux pas rester dans le contrôle. En fait, il va falloir que par exemple, je devienne un personnage. Okay. C'est ça. Mmh.
Mais c'est du travail. PF, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Quand je vous ai parlé de cet écrivain américain et de ce qu'il préconisait, je me suis rappelé ensuite que je l'avais essayé. C'est-à-dire qu'à un moment, ça n'allait pas trop dans l'écriture. J'avais lu ce conseil.
Essayer de t'asseoir et d'écrire.
Essayer de s'asseoir et de... Et quoi qu'il en coûte, rester assis, même si ça ne venait pas. Et ça avait été une véritable catastrophe. C'est, en fait, j'y crois absolument pas à ce côté « je passe en force ». En tous les cas, chez moi, et je pense chez la plupart des auteurs, je pense que la créativité, ça passe par la joie, par l'amusement, c'est pour ça que c'est très sympa d'être à deux, par la déconne, Et non, le côté je passe en force, de toute façon, les idées, elles vont arriver, non, j'y crois pas du tout.
Ça, c'est le côté massue, ça. D'accord.
Ouais, moi, je pense que... Si on veut faire ce métier, si on veut en vivre, si on veut, c'est important, voilà. N'importe quel métier créatif, c'est important pour moi. Dit Jack London, ce que je vois, c'est il faut stimuler notre imagination pour tout le temps avoir pour être capable de réagir rapidement. Et on peut pas. Moi, je pense qu'on peut pas attendre assis effectivement en face de sa feuille, attendre que ça sorte, parce que ça. Je parle dans une logique commerciale. Je ne parle pas dans une logique amateur où effectivement t'écris pour le plaisir et pour toi. Il faut un peu essayer de se stimuler, mais toujours de manière ludique. Et détendu, parce qu'effectivement, la lutte, c'est compliqué. Voilà.
Globalement, l'idée, pour être créatif, c'est de se connaître, au final. On en a bien fait le tour. Chacun a parlé de ses expériences et de ses façons d'être créatif. Et on le voit bien, ce qui marche finalement, c'est de se connaître et savoir ce qui marche pour nous. Mmh. C'est comme ça qu'on est créatif. Et chacun, finalement, chacun est différent, chacun est créatif à sa manière. Et après, évidemment, quand il y a la page blanche, quand on n'a pas d'inspiration, quand on porte du noir PF et qu'on n'a pas fait exprès, mais qu'on a que ça aujourd'hui, et du coup, on n'arrive pas à écrire ou qu'on est mal rasé, on peut croire qu'on est en panne d'inspiration, mais on a pas... Il y a des solutions en fait, mais en tout cas on a fait un petit peu le tour de ce qui on était et comment on était créatif à notre manière. Alors Pierre-François, je crois que tu es en train de lire un livre en ce moment dont tu voulais nous parler, comment ça s'appelle ?
Oui, ça s'appelle Le réflexe créatif.
Ah ben ça tombe bien.
Oui, tout à fait, on est en plein dans le sujet de Twyla Tarp. En fait c'est un livre qui a été recommandé par Nathalie Lenoir et qui est vraiment étonnant. En fait Twyla Tarp c'est une chorégraphe américaine, je crois, qui a fait une carrière incroyable, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, qui a fait un nombre, qui a mis en scène, qui a dansé dans un nombre de ballets ahurissants. Et en fait, elle s'est aperçue que, en termes de créativité, tous les arts se rejoignaient. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on soit écrivain, danseuse, peintre, scénariste, réalisateur, quels que soient les arts, en fait, il y a vraiment des points communs. Et à travers son parcours professionnel, elle nous raconte de l'intérieur ce qu'est la vie d'une artiste comme elle qui se consacre à 100% à son art. Et en même temps, le livre est jonché de tout petits exercices très, très sympas pour booster notre créativité. Voilà, alors c'est vraiment un livre que je vous recommande.
Eh bien super, merci beaucoup Pierre-François pour cette conclusion. Sur cette lecture, cette recommandation. C'est donc la fin de ce podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème...
Le réseau.
Voilà, donc la 3G, la 4G, le Wi-Fi, quelle
non,
différence
non, non,
tout
non,
ça
le réseau, c'est-à-dire les contacts, l'entourage professionnel. Voilà, on se posera des questions, on se demandera comment se construit un réseau, parce que c'est important, surtout dans les milieux créatifs, et comment l'entretenir.
Ça peut vous intéresser, surtout si vous êtes un peu comme nous, c'est-à-dire timide, limite asociaux, et surtout pas fils d'eux. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur notre site www.adrienetmathieu.fr. Retrouvez aussi Pierre-François, script doctor, script jardinier sur www.lescript-jardinier.com et bien sûr si vous avez du temps à perdre sur notre Facebook, Instagram et Twitter.
Et si vous avez des choses à nous dire, des sujets à nous suggérer, des témoignages à nous partager, vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse podcast@adrienetmathieu.fr, podcast au singulier. Adrien avec un H, Mathieu avec un T.
Salut Cécile, salut PF, à la prochaine.
Salut,
à bientôt.
Salut.